Et Julien, il est 15h, c'est place à Maintenant JV, on n'attend plus que toi.
Si comme moi, vous attendez ce moment toute la semaine, si dès que l'heure fatidique approche, vous augmentez le son, attachez vos ceintures, restez derrière vos postes de radio ou de vos smartphones, parce qu'il est prêt, il replace sa cravate, vérifie ses boutons de manchette, un dernier regard dans le miroir, le voici. Chaque mercredi après-midi, pendant une heure, découverte musicale et culturelle avec Julien. 15h-16h, Maintenant j'y vais sur Radio Plus.
Hello, salut, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Maintenant j'y vais. La France se déconfine toujours un peu plus, la culture, elle, toujours un peu moins, malheureusement, mais je suis néanmoins ravi de vous annoncer que, pour la première fois depuis longtemps dans cette émission, on retrouvera un agenda, car il y a pas mal de concerts qui sont annoncés à l'occasion de la fête de la musique. Évidemment, beaucoup de propositions virtuelles, pardon, mais quelques propositions physiques également. On fera le point, évidemment, dans cette émission. Et sous réserve que la météo soit plus agréable que celle que nous avons en ce moment, puisque l'orage gronde, et pas qu'un peu, au-dessus des studios de Radio Plus. Dans cette émission, deux sujets seront également abordés aujourd'hui. Le premier va nous parler de littérature, avec l'arrivée prochainement d'un livre illustré, réalisé par un collectif d'auteurs illustrateurs, pour quelques-uns de notre région, hein, d'ailleurs. Un livre qui s'appellera Regard, et qui va sortir courant octobre, courant novembre. Un financement participatif a lieu d'ailleurs en ce moment et jusqu'à la fin de la semaine. Il faut donc se dépêcher si vous avez envie de soutenir ce projet. Lucie a interviewé le responsable de ce projet. C'est à retrouver dans quelques minutes. Et puis on s'intéressera en deuxième partie d'émission au secteur de la musique, des musiques actuelles, avec Antoine Cordier du pôle régional des musiques actuelles Haute Fidélité, pour évoquer le plan de sauvegarde de la filière proposé par la structure et que soutient Radio Plus et de nombreux autres signataires. Vous aurez donc l'agenda, quelques bons plans et puis côté musique, on va démarrer avec un son assez dansant, l'électropop de Ma, un groupe parisien fondé en 2016. On leur doit notamment, dans leur fait d'armes, un remix électropop du titre Wonderful Life de Black, mais aussi un premier EP en 2018 intitulé Fight. Et un album qui arrive là au troisième trimestre 2020. Le premier extrait de cet album, il sort le 2 juillet, mais nous on a réussi à vous le diffuser en exclusivité et on va le découvrir ensemble. Ça s'appelle Dance For Me. Voici Ma sur Radio Plus.
Maintenant j'y vais avec Julien.
I know.
C'était Ma à l'instant sur Radio Plus avec Dance For Me. Et oui, évidemment, ça donne envie de danser. C'est bien pour se réchauffer un petit peu avec ce temps pluvieux. Quoique la chaleur est bien et bien au rendez-vous. Hein. On a un vrai temps d'orage là sur notre région des Hauts-de-France. Mais en tout cas, on a profité de cette danse et c'est parfait ça aussi pour danser sous la pluie et se rafraîchir un petit peu. Et je vous rappelle que l'album sort au troisième trimestre 2020.
La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Vous avez quelques minutes ? Ça tombe bien. Julien aussi. Maintenant j'y vais. Le zoom.
Et on va parler de littérature dans Maintenant j'y vais avec un projet de livre illustré porté par l'auteur Patrice Véry qui travaille en parallèle de son activité d'auteur dans le domaine de l'audiovisuel. Un livre qu'il prépare depuis 3 ans maintenant, qui s'appelle Regard. Un livre pour lequel il s'est associé avec 70 artistes de tous horizons. De tout média également, de tout médium. Et il a choisi le financement participatif pour être libre d'éditeur. Un financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank qui a été lancée au début du confinement et qui est encore active jusqu'à la fin de cette semaine. Le livre donc s'appelle Regard. Et pour en savoir plus sur ce projet, on retrouve Patrice Véry au micro de Lucie Leclerc de Radio Plus.
Est-ce que vous pouvez me parler du coup un peu de ce livre? Quel est son concept? Comment est-ce qu'il a été conçu?
Alors le concept, il est assez simple en fait, c'est de réunir des artistes un peu de tous horizons, de pouvoir faire côtoyer des artistes très connus avec d'autres moins ou avec certains dont c'est pas le métier premier. Donc ça c'était la première chose, c'est essayer de créer une effervescence entre tous ces femmes et ces hommes. Ce que le secteur en général de l'édition ne permet pas, puisqu'il faut toujours des projets, on va dire, vendeurs tout de suite. C'était aussi de faire un beau livre. Donc voilà, essayer de montrer qu'on peut encore, de nos jours, essayer de financer des projets indépendants et d'en faire un bel objet. Parce que encore l'idée que le livre a une longue vie devant lui et que un beau livre, ça change tout. Voilà, beau papier, belle couverture, du contenu, l'avoir dans son étagère, pouvoir le toucher, pouvoir le regarder, pouvoir le fêter quand on a envie.
Et justement, là, vous parliez des différents artistes qui ont participé. Il y en a 70, c'est ça, je crois ?
À peu près. On va en révéler encore quelques-uns aujourd'hui ou demain, à dernière minute, ceux qui vont accompagner la troisième partie du livre. Il y a encore quelques surprises.
Et qu'est-ce qui les lie, ces artistes ?
Alors en fait c'est vraiment le mot liberté, je dirais, ce qui les lie. Alors certains se connaissent du coup, donc c'est l'amitié, c'est l'envie de faire des choses en dehors d'un certain système, on va dire, puisque le but du livre en fait c'est d'être financé dans un premier temps, et ensuite on va essayer de se battre un par un, voilà, pour essayer de le montrer, pour essayer de le diffuser, pour on va pas faire du porte à porte, mais c'est presque un peu ça en fait. Comme on n'a pas de distributeur, on n'a rien en fait. Voilà, on part, il n'y a pas d'attaché de presse, il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas d'éditeur. C'est une auto-édition par mois et nos compagnons de route en fait.
J'ai cru comprendre, arrêtez-moi si je me trompe, mais que les médiums de ces artistes étaient différents. J'ai l'impression qu'il y a de la photo, qu'il y a du dessin.
Alors justement, c'est assez vaste. Il y a de la photo, du dessin, il y a du crayon. Il y a également du numérique, de la peinture, de l'encre de Chine. C'est vraiment ouvert à tous les médiums, à tous les styles. En fait, on se donne pas de limites. Voilà. En fait, à la base, j'essaie de distribuer les thématiques et mes textes à chaque artiste. Et ensuite, je lui laisse une totale liberté sur son choix pour le rendu.
Vous parlez des thématiques de votre livre. Alors, il est scindé en 3 parties. Petit traité de légèreté anatomique et sensorielle, chronique mutante et parfois contestataire, bref délire thérapeutique. Ce sont des noms de thèmes un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ?
Oui, c'est des noms de thèmes un peu particuliers, parce que pour un livre particulier, il faut continuer à aller au maximum de ses envies et de la subtilité, en tout cas de l'originalité. Et c'est ça aussi, en fait, d'être sans éditeur, c'est de pouvoir se permettre ce qu'on a envie. Il n'y a pas de compte à rendre, en fait. On croit en quelque chose et on va jusqu'au bout. Et c'est ça aussi qui est intéressant, à mon sens. Donc, le livre, la première partie se veut plutôt humoristique. Ça parle de nous, des petits détails du quotidien. La seconde partie, elle, se veut un peu plus engagée. Donc il y a même une tétralogie consacrée à la cause animale. Il n'y a pas de politique dans le livre, en fait. Enfin, je pense que pour qu'un livre puisse survivre, vivre dans le temps, il faut user de la métaphore. Donc on ne va pas mettre une tête d'un homme politique ou autre. On ne va pas mettre de représentation, en tout cas, sur les faits actuels. On veut juste un peu de subtilité. Voilà, donc caricature, j'utilise aussi les sciences, etc., un peu la science-fiction, pour parler de l'homme, de ce qui se passe aujourd'hui. Parfois aussi, il y a une thématique sur les minerais en Afrique, la façon dont le monde occidental et asiatique, en tout cas les pires, on utilise voilà, le principe de la métaphore pour parler de nous.
Et le dernier, du coup, bref, délire thérapeutique ?
Le dernier, lui, ce sera plus des petits textes, on va dire des petits contes, qui vont parler parfois de la morale, des gens qui ne savent pas écouter les autres, mais qui sont toujours dans des monologues. Plein de petits textes, on va dire, croquignolesques, je l'espère en tout cas, pour clore le livre. Ce qui nous a paru également intéressant, c'est de pouvoir faire des interludes entre chaque partie. Voilà, ça veut dire une petite pause d'image, petit voyage, voilà, un peu comme au théâtre. Et à la fin, il y aura aussi les aventures de Monsieur Plume par un artiste. Donc ça sera une prochaine BD qu'il essaye de faire. On a eu un coup de cœur. Et c'est lui aussi qui fera le postlude. Le postlude, en fait, va représenter donc la fin du livre, mais également le message, juste avec une image, qu'on a envie d'envoyer à la fin de la lecture du livre. On va essayer quand même de donner quelque chose d'optimiste, malgré les temps un peu difficiles. C'est ça aussi, hein, le but. On a lancé la campagne vers la fin du confinement, parce qu'on s'est dit, voilà, faut le faire maintenant, après, on s'aperçoit finalement qu'on se plaint toujours, qu'il y a toujours des problèmes, à la rentrée, ça sera peut-être la crise économique ou autre chose. Enfin, il y a toujours les grèves, ceci, cela. Il y a un moment, faut se lancer. Donc, je pense finalement que c'était le bon moment pour essayer, en tout cas, de montrer à ceux qui ont envie de se lancer aussi, bien sûr, aux artistes, qu'on peut encore essayer de créer des choses malgré tout. Voilà, faut y croire, faut essayer de générer des énergies transrégionales. C'est ça aussi le livre.
Du coup, ces thématiques-là sont construites autour de votre vécu, celui des artistes, c'est ça ?
Exactement. Donc, du coup, chaque partie, en fait, il y a à peu près, on va dire, une trentaine de textes par partie, en gros. Et donc, il y a une trentaine d'artistes associés. Chaque texte est illustré par un artiste différent.
Quel grand message vous avez voulu transmettre avec ces thèmes-là, ces textes, ces images ?
La complexité des pouvoirs créatifs, voilà, la réunion, l'envie, faire réfléchir aussi les gens sur notre monde d'aujourd'hui, faire réfléchir les gens sur demain, apprendre à ne pas se prendre au sérieux également. Ça aussi, c'est une piste importante du livre, savoir se moquer de soi-même. Voilà, je pense que dans certains textes, j'essaye de montrer que c'est important de l'ironie par rapport aux autres.
Vous parlez beaucoup de vos futurs lecteurs, donc on comprend par rapport à ce que vous dites que ce sont des textes et des images directement conçues pour eux, d'où le financement participatif, j'imagine. Pourquoi vous avez eu cette idée-là ?
En fait, par le passé, j'avais tenté d'approcher quelques éditeurs pour avoir leur avis dans un premier temps. Et du coup, sans qu'un seul des éditeurs m'ait demandé un texte, ou sans qu'un seul éditeur m'ait demandé à regarder une seule illustration d'un des artistes, les seules réponses que j'ai pu obtenir, c'était « Oh là là, mais c'est il y a de la couleur, mais c'est cher. Oh là là, mais il y a des artistes pas connus. Oh là là, mais c'est dur. » Enfin, voilà. Enfin, en gros, j'avais que des messages négatifs, alors que j'aurais préféré... à défaut, peut-être un encouragement, le projet a l'air sympa, je te donne des conseils, quelque chose, voilà. Voilà ce que j'attends, en fait, des fois des autres. Et en fait, ça m'a, entre guillemets, un peu déprimé. Et je me suis dit, à ce moment-là, puisque le monde tourne ainsi, on va essayer de montrer, justement, qu'on peut le faire malgré tout. Et donc, la seule solution, c'était de faire des présentes et de faire un financement participatif. C'était là. L'unique solution et le livre, c'est ça aussi, c'est de montrer qu'on peut faire des choses en toute indépendance et avec la foi et avec être entouré aussi, bien sûr, de bonnes énergies. Et c'est le cas dans ce livre. Voilà. Il y a des artistes formidables comme D'Apollo, Guillaume Mazel, Anastasia Elias, Alexandrine L, qui nous soutiennent et le portent à bout de bras aussi. Et, en cela, ça fait une belle aventure humaine, en fait. Voilà, c'est, ça va s'arrêter jeudi. On se parle tous les jours avec les membres du groupe resserré, entre guillemets. Et voilà, ça va faire un petit vide tout d'un coup après, après tant de stress, après tant de mise en avant. Mais il y a encore du travail après et on va essayer de montrer justement au public, en tout cas à ceux qui nous suivent, comment se déroule après le second process pour sortir le livre. Ça veut dire, bah, il y a encore un peu d'écriture, il y a des nouveaux artistes, il va falloir montrer comment se fait la mise en page. On parle de mise en page en général, mais on a l'impression que c'est simple, mais en fait, c'est plutôt complexe parce qu'il y a la colorimétrie qui rentre en jeu, enfin, il y a beaucoup d'axes qu'il faut tenir compte. C'est vraiment un gros travail, quoi. Et ça aussi, on a envie de le montrer un peu, quoi. C'est montrer un peu comment ça se passe derrière. C'est normal puisque les gens nous ont accompagnés, ils font partie du livre. C'est pour ça que j'ai tenu à mettre leur nom dedans parce que ben c'est grâce à eux que le livre va vivre.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la conception, le livre? Vous travaillez dessus depuis 3 ans. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu ces 3 années en collaboration avec les artistes pendant lesquelles vous avez écrit les textes aussi, j'imagine?
Donc ouais, ça a été un peu initié il y a 3 ans. Bon, après ça a pris du temps. Hein. Comme je le disais, bon, c'est pas mon métier premier. Du coup, je travaille quand je peux, le soir, le week-end, en fonction du temps qui passe. Donc des fois, il y a des phases où il se passe pas grand-chose. Après, il y a des phases plus créatives. Voilà, ça, c'est aussi le temps qu'il faut pour tisser des liens, faire des rencontres. Parce que quand vous n'êtes pas connu, comme moi, et que vous allez voir un artiste, que vous lui dites « Hey, j'aimerais bien que tu fasses une illustration, je ne pourrais pas te payer, je ne sais pas si le livre va exister. » En général, ça les fait rigoler. Donc, c'est pas facile non plus, effectivement, d'expliquer le concept, d'expliquer son originalité, entre guillemets. Et c'est ça aussi qui prend un peu de temps. Après, je pense que le livre précédent, « Mission Endorphine », a quand même aidé à pouvoir... on va dire, élargir le cercle des possibilités de tous ces artistes qui sont venus nous rejoindre. Il y en a certains qui étaient déjà dans le livre précédent. Les fidèles, en tout cas, voilà, je pense qu'ils étaient tellement dans le livre que c'était pour moi une évidence, en tout cas, de continuer le chemin, parce que ceci faire un chemin avec des amis, avec des nouveaux amis. Et ça, en fait, des fois, je faisais des posts sur Facebook pour dire, bah, si vous avez envie de nous rejoindre, écrivez-nous. C'est ça aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fermeture, c'est pas parce que je connais pas cette personne que c'est pas possible. Si, justement, c'est possible. C'est pas que le concept ami ou ami de ami. Non, non, c'est une ouverture totale et globale.
Vous vous attendiez à cet aspect aussi humain quand vous avez lancé le projet?
Non. Je pouvais des fois y penser, mais c'est difficile de l'imaginer quand on l'a pas vécu. Et en fait, ben, on l'apprend et au fur et à mesure du temps qui passe. C'est ça aussi, ouais, c'est une sorte d'apprentissage de la vie, c'est un apprentissage de plein de choses. C'est aussi essayer de composer avec les autres, voilà. C'est du coup, parce que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, comment ça se passe, comment ça va se passer. Enfin, il faut porter une attention particulière à chaque membre du groupe. Et moi, j'adore, enfin, sur le site, quand on nous pose des questions, c'est un plaisir de répondre. C'est normal en même temps, ça va être un groupe, c'est pas juste un groupe d'artistes, on peut être tous artistes. C'est pas, l'artiste n'est pas juste, je pense, celui qui va peindre ou celui qui va écrire. Loin de là, celui qui fait des choses avec ses mains, c'est formidable aussi. Le plongée peut être formidable. Enfin, la notion est assez vaste, en tout cas, de mon point de vue.
Votre livre s'appellera Regard au pluriel. Donc, vous parlez du regard que vous portez sur le monde, des regards pluriels qu'on porte sur le monde, j'imagine. C'est ça?
Exactement. Il y aura peut-être une petite appendice au titre. Je suis en pleine réflexion, donc il sera peut-être un petit peu allongé, mais sinon, oui, le premier mot, c'est regard. C'est le regard sur nous-mêmes, le regard sur le monde. Donc, c'est une diversité de points de vue, ce qui représente aussi, du coup, la couverture. Il devait s'appeler, à l'origine, L'oreille qui ne voulait rien entendre. Voilà, je trouvais ce titre intéressant, mais c'est ça qui est aussi marrant, c'est que dans l'évolution du temps, ben, des fois, la façon dont on voit les choses évolue. Et du coup, l'oreille qui ne voulait rien entendre, je trouvais ça trop politisé. À une époque, ça aurait pu plus se passer, mais là, je trouvais ça trop engagé, ça fait trop social, et donc moins, pas assez de subtilité dans ce que je recherchais. Donc voilà, je me suis dit, je vais prendre un mot un peu valise, qui va vraiment assez neutre et qui va essayer de représenter de manière plus globale ce que veut signifier les différentes thématiques du livre. Mais il est possible que j'y associe encore une petite phrase en sous-titre pour que ce soit un peu plus rigolo.
Vous parlez d'écrire, vous semblez porter un amour assez incroyable à l'écriture. Dans le dossier de presse du livre, vous parlez de création porteuse d'espoir.
Porteuse d'espoir, dans le sens où on proposera un livre qui va sans doute exister et que ça puisse essayer de générer chez les gens, les individus, des envies. Je rencontre beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui me disent, qui commencent déjà à me dire « Ah, c'est super, ce livre, ça m'a donné envie d'accomplir un rêve. » L'autre jour, j'ai eu un photographe grâce, il m'a dit « Ah, écoute, là, quand je vois le projet que vous menez, ça fait des années que j'ai envie de faire un projet de photo, je crois que je vais me lancer. » Et rien que ça, moi, si ça fait réfléchir une personne, s'il y a juste une seule personne à qui ça donne envie de faire des choses, et si on en a envie de croire, rien que ça, c'est formidable. Moi, je serais le plus heureux des hommes. Et déjà, je pense que ce qu'on a accompli aujourd'hui, ce que les gens que j'ai pu rencontrer parmi les différents artistes, déjà, rien qu'en ça, c'est une belle aventure. Tous ceux qui sont venus se greffer, c'est chouette aussi. Et je dis aux gens, c'est pas non plus participer que financièrement, c'est pas ça qu'on demande des fois. Même un partage de formation, c'est génial, Même un mot d'encouragement, ça fait chaud au cœur aussi, et c'est aussi important, Tout le monde n'a pas les moyens, effectivement, d'acheter un livre ou c'est pas la période. Enfin, chacun a ses problématiques. Donc il n'y a pas de... Chacun peut participer à sa manière,
Vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver?
Écoutez, sur Facebook, principalement. On a le groupe En Regard. Après, sur Instagram, moi, je ne maîtrise pas de manière formidable. C'est les deux principaux réseaux.
Vous avez votre page participative aussi, Kiss Kiss Bang Bang?
Bien sûr, effectivement, oui. Sur le site de Kiss Kiss Bang Bang, la page va rester après la campagne et continuera d'être nourrie avec des informations. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est possible aussi.
Maintenant, j'y vais avec Julien, jusqu'à 16h.
Voilà, et si ce projet vous donne envie d'aider à sa réalisation, eh bien il ne manque qu'une poignée d'euros pour cela. Il est encore temps de participer financièrement au travers de la campagne de financement participatif sur la plateforme Kiss Kiss Bang Bang. Il vous suffit de taper Livre Regard sur Facebook ou de vous rendre encore sur la page Patrice Véry Auteur. Patrice, le prénom Patrice et Véry, V-E-2-R-Y. Auteur, et vous allez retrouver tous les liens pour contribuer. Attention, c'est le dernier, il restera une journée pour contribuer, alors il faut vraiment se dépêcher, il ne manque qu'une poignée d'euros, alors soutenez aussi la sortie de ce livre réalisé par près de 70 artistes. h 25 sur Radio Plus, et dans un petit peu plus de 5 minutes, on va parler musiques actuelles avec le pôle régional de musiques actuelles Haute Fidélité. Mais là, je suis très 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 content de vous annoncer le retour, parce qu'on ne l'attendait plus, le retour d'une rubrique qui va vous parler concert, qui va vous parler musique. C'est la rubrique Agenda que l'on retrouve juste après ceci.
Si comme pour moi, la musique accompagne tous les moments de votre vie depuis toujours,
il y a aujourd'hui urgence
à soutenir la scène française.
Ce n'est pas simplement
l'impossibilité de vivre la musique.
C'est pour tous les créateurs français
le risque de disparaître.
Alors pour que vous puissiez demain encore écouter
la musique,
sans oublier le mot,
créez des playlists, hashtag scène française.
Partagez vos coups de cœur, hashtag scène française.
Merci beaucoup, c'est à vous de jouer.
Rejoignez le mouvement sur scènefrançaise.fr, une initiative de la SACEM. Ensemble, faisons vivre la musique.
Laissez-vous guider, Julien s'occupe de tout. Maintenant j'y vais, l'agenda.
Ah, ça fait du bien de se dire qu'on a un agenda à vous communiquer. Alors on va se réjouir de savoir que quelques lieux accueillent ou proposent des événements, notamment à l'occasion de la fête de la musique, que certains festivals auront même une transposition virtuelle. C'est sûr que c'est pas encore l'idéal, parce qu'on est loin, bien loin des festivals à 40 000 ou même des aéronefs à 1200 spectateurs, mais on va se dire que ça existe, que ça fait du bien, que ça permet aussi de se changer les idées et qu'on peut même maintenant inviter les voisins pour profiter dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Et pourquoi pas démarrer dès ce soir à partir partir de 19h, l'association Musique à tout va vous propose sur sa page Facebook un live avec Monsieur Rémy et Seb Dill. Rien de plus simple pour profiter de ce moment musical. Direction à partir de 19h, la page Facebook Musique à tout va, M-U-Z-I-C-A-T-O-U-V-A. Le 99 bis et le Métaphone vous propose une fête de la musique virtuelle à découvrir. Bazuel, Cosmo Nusuna et Peter Nolan qui seront sur la scène du Métaphone sans public, filmé. C'est à retrouver le 21 juin à partir de 18h pour cette fête de la musique un peu spéciale. Connectez-vous sur la page Facebook du 99 bis ou sur celle du Métaphone pour assister à un concert depuis chez vous. Autre événement virtuel, c'est le festival Dans ta maison qui revient pour une nouvelle édition sur deux jours, le 18 et le 19 juin. Au programme, une programmation 100% Hauts-de-France dès 18h30. Vous allez retrouver le 18 juin Léna Deluxe, Old Trees, Dédomise et Virgile, la moitié d'Avox qui fait aussi un projet parallèle électro en solo. Et en warm-up, vous retrouverez Dawai. Le vendredi 19 juin, c'est Arocana, Solomon Pico, Jelly Bean, AKM and the Mystic Calls et en warm-up les Space Alligators qui seront au rendez-vous. Vous vous connectez sur Facebook, vous tapez Festival dans ta maison et vous vous laissez guider. À Lambre, à côté de Douai, c'est une fête de la musique en physique qui vous est proposée à la MJC de Lambre. Évidemment, c'est inscription obligatoire sur le site internet de la MJC de Lambre, mjclambre.fr, et le nombre de places est limité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos amis de Radio Scarpe Sensée retransmettront les concerts. 8 groupes sur deux scènes pour fêter ensemble la musique comme il se doit avec les gestes barrières, avec sur scène Quentin Goncalves, La Mécanique des Sons, Jean Lanctin et Olivier qui rendront hommage à Georges Brassens, Standing at the Machine, groupe de pop, Purple Pop, groupe de rock, le collectif TFTF qui fait de la chanson manouche et Jeff Kino qui sera également au rendez-vous. Si vous êtes plutôt amateur de musique électronique, ça se passe le 20 juin au magasin Sonolence, rue de l'Abbé Jerzy Populesco, derrière le magasin le centre commercial Coralance 2, de 9h à 20h, en plein air, des DJ vont se relayer en non-stop, Sea Raver, Setenza, Félix Dorn et bien d'autres, et parmi lesquels BDJ, DJ résident de Radio Plus, que vous retrouverez pour Live 7 chaque samedi à 23h. Et puis toujours dans le domaine des musiques électroniques, le festival Tomorrowland devient virtuel cette année avec une édition intitulée Tomorrowland Around the World, prévue les 25 et les 26 juillet. Pour en savoir plus, eh bien on en parlera sur notre antenne dans l'émission Techno Overdrive de ce samedi 20 juin à partir de 21h. L'interview Jean-Philippe qui a reçu Debbie Wilson, porte-parole du festival Tomorrowland. Autre festival qui se dévoile de manière virtuelle, c'est le festival Crossroads, qui accueillera cette année parmi des artistes Jackson Fire, Fleuve Noir, Johnny Carwash, L'Argousier, Le Goût de la Ville, L'Ombre, This Will Destroy Your Earth, Très Amer, YN, Udima et plein d'autres. Tout le programme sur le site internet crossroadsfestival.org. Et puis du 3 au 5 juillet, le Crédit Mutuel donne le la à la Main Square TV. Rediffusion d'anciens live, rendez-vous des artistes, challenge, quiz, concours, tuto recette, des surprises. Les lauréats de l'édition 2020 du tremplin du Main Square Festival qui seront également présents sur cette TV virtuelle. Betty Cole, Pastet Coast et Midos Lados que l'on retrouvera aussi sur scène en vrai les 2, 3 et 4 juillet 2021. Il faudra se connecter sur le site internet du Main Square Festival. Et puis on termine avec les prochains invités en studio. Elie Pichard, la semaine prochaine, qui viendra présenter son album Tears of the World. Il sera également en concert ce samedi 20 juin à l'Insensé à Arleux pour une soirée pop, rock and roll. Il y aura également Johnny Hill le 22 juillet sur notre antenne. Johnny Hill que vous allez pouvoir retrouver du côté des 4 écluses pour les veillées de Lilo. C'est un concert qui est proposé demain à 22h30. Toutes les infos sur la page Facebook Johnny Hill. Et on va l'écouter justement, Johnny Hill, avec son nouveau single. Ça s'appelle I Don't Know What I'm Doing.
See how the birds can fly high. Maybe they've seen me trying. Let me tell you something. Sometimes I'm dying, whoa. Since November.
maintenant j'y vais avec Julien.
Et à l'instant, sur Radio Plus dans Maintenant J'y vais, vous écoutiez Johnny Hill avec ce titre I Don't Know What I'm Doing, qui est extrait de son EP apparaître au mois de juillet. L'EP s'appelle I'll Be Searching the Light et on espère qu'on va avoir beaucoup de choses à vous communiquer là-dessus. En tout cas, Johnny Hill viendra présenter son EP le 22 juillet prochain sur notre antenne. C'est évidemment à ne pas louper.
Julien prépare ses questions.
Tu veux apprendre des choses qu'on ne te dit pas sur Wikipédia ?
Maintenant j'y vais. L'interview.
Et à présent, on va parler musique actuelle avec le pôle régional Haute Fidélité. Souvenez-vous, on les avait reçus par téléphone en période de confinement pour prendre un petit peu la température du secteur. Un secteur qui avait un moral un peu morose et on le comprend. Et alors que la France est déconfinée quasiment en intégralité avec tout de même quelques restrictions, le milieu de la culture en général et celui des musiques actuelles en particulier reste dans le flou. En région Hauts-de-France, le pôle régional Haute Fidélité se démène, publiant une enquête en deux parties. La deuxième est d'ailleurs actuellement en cours de réalisation, et en lançant également une proposition de plan de sauvegarde et de relance de la filière des musiques actuelles. Pour parler de tout ça, je reçois Antoine Cordier, chargé d'études et d'observation au pôle régional Haute Fidélité. Salut Antoine.
Salut.
Alors tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte au travers de cette étude que vous menez, étude en deux parties. Pourquoi cette étude ?
Alors l'idée en fait c'était de mesurer dans un premier temps les conséquences directes de la crise sur les acteurs, c'est-à-dire que en fait on se devait de faire quelque chose et de réagir face à la situation. Non seulement ça nous a permis d'être dans un premier temps en contact avec nos acteurs, et en même temps il y avait un besoin d'avoir des chiffres un peu concrets à communiquer auprès de nos financeurs, donc des pouvoirs publics, de la région, des collectivités, et aussi pour nous, pour le secteur, avoir un peu cette prise de recul. Donc en fait, on a pensé cette étude vraiment en deux parties parce que c'était trop difficile en fait d'avoir suffisamment de recul sur la situation et d'avoir toutes les données, par exemple tout ce qui est trésorerie et impact sur les budgets, sur les emplois, c'est des choses qu'on va voir en fait sur le long terme. Donc dans un premier temps, c'était vraiment d'identifier les conséquences directes, immédiates, sur nos acteurs et sur nos activités.
Qu'est-ce qu'on peut tirer déjà comme première conclusion à l'issue de la publication du premier volet de l'étude ?
Alors ce qu'on peut voir, c'est que c'est l'ensemble en fait des activités de la filière qui a impacté. C'est toute la chaîne en fait, si on peut dire, qui est complètement à l'arrêt quasi total. Et que en fin de compte, donc ce sont les intermittents et les artistes qui vont se retrouver le plus impactés. Et par effet boule de neige, notamment les structures qui sont aussi peu aidées financièrement par des subventions publiques. Donc ce sont des structures qui dépendent majoritairement de leurs recettes propres. Donc ça peut être des billetteries pour les salles de concert, mais aussi des ventes d'albums pour le secteur phonographique. Etc. Donc en fait, les acteurs qui vont être le plus en difficulté sont les artistes, les intermittents d'un côté, et de l'autre côté les petites associations et les petits acteurs privés, c'est-à-dire qui ne sont pas associatifs mais qui n'ont aucune subvention pour venir aider cette perte de revenus. En gros, je dirais toutes les structures dont le modèle repose sur les recettes propres. Ça, ce sont des acteurs qui sont le plus en crise, je dirais.
Et d'ailleurs, en ce qui concerne justement les structures qui accueillent les publics, il y a deux craintes qui ressortent de cette étude. La première, on en parlait déjà lors de notre premier échange pour parler des craintes du secteur, c'est une surcharge de l'offre culturelle à la rentrée avec les reports qui vont se cumuler aux dates de la nouvelle saison à venir. Et puis également, une crainte de la démobilisation du public, c'est ça ?
Exactement. En fait, il est un peu tôt et il est un peu incertain d'anticiper les comportements à venir des publics. On peut, par exemple, supposer qu'il y aura une crainte de se rencontrer dans un espace clos parce que les salles de concert, c'est quand même globalement ça, un espace clos avec beaucoup de public au même endroit. On peut également craindre des baisses de fréquentation liées à une éventuelle baisse du pouvoir d'achat. Voilà, c'est des données aujourd'hui qui sont assez difficiles à anticiper. Donc en tout cas, ce qui semble probable, c'est que l'activité, même si les concerts reprennent, avant d'obtenir une fréquentation habituelle, ça va peut-être demander du temps.
Alors, le deuxième volet, l'étude est en cours en ce moment. Quand aura-t-on les résultats ?
Alors, on a fixé une date limite de réponse au 10 juillet, le temps de permettre au maximum de structures de répondre. Il se peut que le délai soit un peu prolongé, mais je pense qu'on aura déjà des premiers résultats en juillet, peut-être début août, et en tout cas en septembre, on aura vraiment la photographie de la situation.
Alors, deuxième action en ce moment menée par le pôle régional des musiques actuelles, c'est le plan de sauvegarde et de relance de la filière des musiques actuelles, un plan à destination des pouvoirs publics en région. Deux axes apparaissent donc clairement, hein, l'urgence et la relance. Est-ce que tu peux nous présenter justement ces deux axes ?
Alors, en fait, il nous a semblé quand même très urgent de proposer en fait des idées ou des initiatives concrètes pour réagir face à la crise. On avait besoin d'avoir des perspectives concrètes pour se projeter et en même temps des choses qui nous semblaient à l'échelle du pôle facilement réalisables ou en tout cas pas hors sol. Donc on a conçu ce plan à la fois donc sauvegarde et relance avec avec les membres représentants de notre bureau au sein du réseau, donc qui est constitué à la fois de salles, de producteurs, d'écoles de musique. Et donc, ce qui nous a paru le plus important, c'était de répondre à cette question, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour répondre à l'urgence, pour répondre aux acteurs les plus fragiles. Donc, l'idée, c'était forcément demander plus d'argent parce que c'est inévitable en fait que le secteur a besoin d'un soutien public pour survivre. Je parlais des acteurs qui ont un fonctionnement privé, donc qui ne dépendent très peu des subventions publiques. C'est ces acteurs-là qu'il faut aider en premier lieu. Donc l'idée, c'est bien sûr de faire des propositions pour orienter l'argent public, le mettre là où il y a le plus besoin. Et en même temps, l'idée, c'était aussi de s'appuyer sur des dispositifs et des outils qui existent déjà à l'échelle de la région, à les renforcer, à les élargir aux besoins, en tout cas à s'appuyer sur l'existant pour le faire monter en puissance.
Ouais, l'idée notamment, c'était de maintenir toutes les aides existantes, de considérer que les contrats ont été réalisés et peuvent donc être payés auprès des artistes. C'était vraiment assurer avec de l'argent qui existe déjà sans creuser des trésoreries à droite et à gauche.
Exactement. Alors, on a eu des positionnements de plusieurs collectivités, mais le positionnement est pas toujours clair auprès de certains échelons. Voilà, ou certaines communautés d'agglomération ou de villes. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir un positionnement, je dirais, unitaire, en tout cas commun, des collectivités sur certaines de ces mesures.
Et puis, la relance, parce que finalement, la saison 2020-2021 se prépare déjà maintenant.
Exactement. Donc l'idée de ce plan de relance, c'est de repartir en quelque sorte sur de bonnes bases, repenser avec les acteurs certains dispositifs de politique culturelle, d'affirmer, de consolider des espaces de dialogue entre les acteurs de terrain et les pouvoirs publics. On a notamment parlé du contrat de filière, qui est un espace qui existe, qui a été lancé l'année dernière et qui consiste en fait C'est une convention qui est signée à la fois par l'État, la région, le CNV, actuellement CNM, pour financer des dispositifs musicaux. Et l'idée donc de cet espace de dialogue serait de le renforcer en pouvant intégrer d'autres échelons politiques, donc notamment des départements ou des villes de la région. Donc on voit bien qu'il y a des outils qui existent, mais qui sont vraiment à consolider dans le contexte de la crise et qui permettraient un accompagnement plus poussé et un soutien plus fort aux acteurs.
En deux mots, il y a aussi une ligne là qui nous interpelle dans ce plan de relance qui est communiqué, hein, qui est visible sur le site internet notamment de Haute Fidélité, le développement des GIP Café Culture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ?
Alors le GIP Café Culture, c'est un groupement d'intérêt public. En d'autres mots, c'est un dispositif, c'est un fonds d'aide qui permet aux cafés, aux bars, aux restaurants de payer des artistes et des techniciens dans des conditions optimales. Et donc ce fonds de soutien est abondé par les collectivités territoriales et par le ministère de la Culture. Donc la région Hauts-de-France a adhéré à ce groupement d'intérêt public en novembre dernier, mais c'est encore peu de visibilité dans la région. Et donc l'idée, ça serait de... encore une fois, de s'appuyer sur cet outil existant qui sera d'une grande aide pour les cafés-concerts et pour relancer, je dirais, en fait, on voit que les bénéficiaires de ce type de dispositif, c'est directement les artistes, les techniciens et les cafés-concerts. Voilà, donc l'idée, ça serait de faire adhérer également d'autres collectivités à cet outil pour le renforcer.
Alors, ce plan de sauvegarde et de relance de la filière, il est signé par de nombreux acteurs, notamment des radios associatives, dont Radio Plus. Il est encore ouvert à la signature à l'heure actuelle. D'autres structures peuvent bien sûr venir signer ce plan de sauvegarde. L'idée, c'est de le défendre à partir de quand auprès des instances régionales ?
Eh ben, dès maintenant. On est. Faut savoir que nous, on est en contact permanent, notamment en particulier avec la région. Et ce sont des propositions qui sont qui ont été soumises au dialogue et elles ne tombent pas non plus du jour au lendemain. Voilà, donc c'est à partir de maintenant qu'on peut défendre ce plan de sauvegarde et de relance.
Dès maintenant et de manière durable, parce que c'est un combat de longue haleine, on l'a bien compris. On peut retrouver notamment toutes les propositions sur la page Facebook de Haute Fidélité, le pôle régional des musiques actuelles. Vous allez retrouver le lien qui vous permet de récupérer la page qui contient toutes ces propositions. Faut vraiment pas hésiter à aller le consulter. Hormis ce plan de sauvegarde, cette étude, et quels sont les prochains projets de Haute Fidélité dans l'été qui approche et à l'approche de cette nouvelle saison culturelle ?
Alors là, en interne, on est en train de retravailler notre projet cadre qui est le projet de notre association sur les trois prochaines années. Donc, on a organisé des temps de travail avec nos adhérents. Et ensuite, on prépare à la rentrée le festival Crossroads, pour lequel nous organisons les rencontres professionnelles. Donc il y aura un panel de conférences qui seront proposées, a priori en visioconférence. Il me semble que c'est le week-end du 11 septembre, si je ne me trompe pas. Voilà.
Et ben,
ça, ce sont les gros projets pour l'instant.
Eh bien, effectivement, un agenda qui est quand même chargé, qu'on ne manquera pas de relayer dans cette émission. Antoine Cordier, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio Plus, chargé d'études et de l'observation au sein du pôle régional Haute Fidélité, pour parler de cette étude d'impact de la crise du Covid-19 sur les structures de la filière des musiques actuelles, et également sur cette proposition de plan de sauvegarde et de relance de la filière des musiques actuelles, un dossier qu'on va évidemment suivre sur Radio Plus. Merci Antoine.
Merci à toi.
La suite, c'est en musique dans Maintenant j'y vais avec notre invité de la semaine prochaine, Élie Pichard. Voici Looking for a Friend.
think very deep inside and must be revealed now. We are looking for friends. We are looking for friends. We are looking for friends to make us forget loneliness. We are looking for friends. We are looking for friends. Forget loneliness. Far is the night where we love to have fun and go out. I'd like to go back once and see on your face your smile. Growth of technology disconnect us, there's no doubt. Never was the moment for connection but fight.
De découvertes musicales et de coups de cœur, c'est maintenant J'y vais avec Julien de 15h à 16h.
Et c'est vrai que c'est un de nos coups de cœur aussi, Élie Pichard, dont l'album Tears of the World est sorti il y a quelques mois maintenant. Il viendra nous en parler dans Maintenant J'y vais la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et bah tiens, c'est déjà justement la fin de l'émission, alors nous on va se quitter, non sans vous remercier d'avoir été fidèle à cette émission. Merci également à Lucie qui a réalisé l'interview de Patrice Véry. Le podcast, il sera disponible dans quelques minutes sur le www.radioplus.fr, rubrique podcast. Podcast Maintenant J'y vais. Et puisque l'on parle des prochains rendez-vous de Maintenant J'y vais, je vous donne d'ores et déjà le rendez-vous la semaine prochaine, donc avec Élie Pichard à partir de 15h, et puis le 22 juillet avec Johnny Hill qui viendra présenter son univers et son dernier EP en date qui sort ce mois de juillet. On aura également au mois d'août quelques cartes blanches à retrouver durant mes vacances et puis plein de surprises que je vous communiquerai très très bientôt. Là, je vais vous laisser avec Bernard qui va vous faire découvrir un chanteur de notre région. Auteur, compositeur, interprète, assez prolifique d'ailleurs. Il s'appelle Joël André et il est à découvrir à partir de 16h dans Tea Time. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, même punition. D'ici là, portez-vous bien, restez heureux. Très très bel après-midi à l'écoute de nos programmes et je vous dis ciao, bye bye.